pour terminer la semaine en beauté, toujours de 21h jusqu'à 22h. Je vous laisse en compagnie du journal du soir jusqu'à 22h20 à peu près. Et puis l'équipe de la Libre Antenne menée par Olivier Delacroix prendra possession de ce studio. Si vous souhaitez les joindre pour témoigner sur cette antenne entre 22h20 et 1h du matin, vous appelez le 01 80 20 39 21. À demain. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée. Ciao.
Europe 1, il est 22h. Le journal, c'est avec vous, Maëlle Hassani. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Europe 1 nuit. Maëlle Hassani.
Ravi de vous accompagner en ce jeudi soir à la une de votre journal. Deux fillettes légèrement blessées dans une petite ville du Bas-Rhin après une attaque au couteau près d'une école. L'assaillant a été interpellé, il n'est pas radicalisé et souffre de troubles mentaux. Tous les détails sur ce drame dès le début de ce journal. Gabriel Attal promet la mobilisation générale de la nation contre la violence chez les plus jeunes. Le Premier ministre était à Viry-Châtillon aujourd'hui, là où Chemseddine, 15 ans, a été battu à mort au début du mois. Des pistes ont été dévoilées pour rétablir l'autorité, mais rien de très concret, vous l'entendrez. Dans ce journal également, un somnifère d'un nouveau genre pour lutter contre l'insomnie. Et puis l'invité politique, la ministre chargée de la jeunesse, Sarah El Haïry. Elle réagira aux annonces de Gabriel Attal.
Europe 1.
La petite ville tranquille de Souffel-Weyersheim, dans le Bas-Rhin, n'est pas habituée à un tel émoi. Un homme a attaqué deux fillettes au couteau cet après-midi, non loin d'une école. Les victimes ont 7 et 11 ans. Elles sont hospitalisées ce soir, mais leurs blessures ne sont pas graves. Mélina Fachin, vous êtes la correspondante d'Europe 1 en Alsace. Le suspect a été interpellé peu après les faits.
Oui, sans opposer de résistance, selon les gendarmes, Maya, 9 ans, scolarisée dans cette école, pense l'avoir aperçue juste avant les attaques.
Déjà, j'avais vu quelque chose. Quelqu'un qui mettait sa main dans sa poche et qui tournait autour de l'école.
L'assaillant est un homme de type caucasien de 30 ans, inconnu des services de police. On sait qu'il a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Selon les informations d'Europe 1, il avait tenté de se suicider en 2022 et ne prenait plus de traitement depuis novembre dernier. Il avait disparu hier soir dans un état suicidaire. Peu après 14h aujourd'hui, Cyrine, 9 ans, a vu l'une des deux jeunes victimes qui l'a poignardée et blessée à la joue.
Je l'ai juste vu rentrer dans l'école avec un mouchoir ici, avec plein de sang dessus. Bah, le maître, déjà, il a fermé les portes. Et après, il me dit de ne pas paniquer parce qu'on avait plein qui pleuraient dans ma classe.
Tous les enfants ont été confinés, y compris ceux du collège juste à côté. La préfecture du Bas-Rhin annonce qu'une élève de 4e a fait un malaise cardiaque. Elle a été transportée aux urgences dans un état grave. Vers 16h, Cara a enfin pu récupérer ses deux enfants, comme les autres parents d'élèves.
Je n'imaginais pas un instant que ça puisse arriver devant nos écoles. Voilà, dans notre petit village, tranquille, ça nous choque. Ça aurait pu être terrible.
Une cellule psychologique a été mise en place pour les élèves et les parents choqués par cette attaque.
Mélina Fachin, correspondante d'Europe 1 en Alsace, et la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, apporte son soutien aux victimes et à leurs familles. Sur le plan judiciaire, une enquête est ouverte pour tentative d'homicide sur mineurs de moins de 15 ans et rébellion. Gabriel Attal dénonce un acte barbare. Le Premier ministre a réagi à l'agression mortelle de Philippe à Grande-Synthe dans le Nord. Ce jeune homme de 22 ans est décédé des suites de ses blessures mardi après avoir été roué de coups. Les agresseurs auraient tendu un guet-apens à la victime en le conviant à un rendez-vous sur un site de rencontre. Deux mineurs de 14 et 15 ans ont été placés en garde à vue. Une marche blanche aura lieu demain à l'initiative de la famille de Philippe. Cette terrible histoire est une nouvelle illustration de l'ultra-violence qui règne dans notre société. Les plus jeunes sont souvent impliqués, comme en témoignent de nombreux drames survenus au cours des derniers jours. Alors le chef du gouvernement a fait un grand discours sur l'autorité à Viry-Châtillon en Essonne, à l'occasion de son 100e jour à Matignon. Et Gabriel Attal a voulu afficher sa fermeté.
Ma boussole, c'est l'impunité zéro, c'est la sanction immédiate. Alors devant vous, je le dis, la culture de l'excuse, c'est fini.
Avec ce discours, le Premier ministre a donné le coup d'envoi d'un cycle de concertation de 8 semaines. Des parlementaires et des élus locaux devraient y participer, entre autres acteurs. Toujours dans cet objectif de stopper l'engrenage de la violence chez les plus jeunes. Arthur Delaborde, que faut-il retenir de cette prise de parole de Gabriel Attal ?
Le Premier ministre lance des pistes plus ou moins concrètes. La seule véritable proposition nouvelle, c'est le retrait de points sur le brevet ou le bac pour les élèves les plus perturbateurs avec mention sur le dossier Parcoursup. Gabriel Attal veut aussi instaurer un conseil de discipline dès le primaire, imposer des travaux d'intérêt général aux parents défaillants. Il souhaite faire signer un contrat avec l'établissement scolaire qui pourrait conduire à une amende en cas de non-respect des obligations. Il plaide également pour la création de travaux d'intérêt éducatif, c'est-à-dire des travaux d'intérêt d'intérêt général pour les mineurs de moins de 15 ans. Pour le reste, cela va d'une meilleure régulation des écrans et des réseaux sociaux à l'obligation de se lever quand le professeur rentre en classe. Gabriel Attal met aussi sur la table de nouvelles peines pour les mineurs, des comparutions immédiates dès 16 ans et se dit prêt à ouvrir le débat sur des atténuations à l'excuse de minorité devant la justice. Le chantier s'annonce donc colossal. Une première copie sera rendue à l'issue de 8 semaines de concertation avec tous les acteurs et les forces politiques.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1, et ce soir Gabriel Attal est sur le plateau de BFM TV. Il a alerté sur la présence de groupes qui cherchent à faire, je cite, un entrisme islamiste sur le territoire en prônant les préceptes de la charia, notamment à l'école. Devant des centaines de sympathisants, Jean-Luc Mélenchon a tenu une conférence sur la voie publique à Lille ce soir. Événement consacré à la Palestine, interdit par la préfecture du Nord et par l'université de Lille auparavant. C'est donc pour cela qu'il se tenait en pleine rue. Les autorités et l'établissement craignaient la venue d'éléments perturbateurs lors de cette réunion. Mais le leader insoumis se dit victime de violences politiques. Emmanuel Macron a réagi à l'interdiction de cette conférence. Le chef de l'État se dit toujours favorable à ce que les gens puissent s'exprimer, même lorsqu'ils ne partagent pas leurs idées. Même position concernant l'interdiction d'une conférence réunissant plusieurs figures de la droite nationale européenne à Bruxelles en début de semaine. Événement auquel le président de Reconquête, Éric Zemmour, était convié. Par ailleurs, il y aura bien un discours de la Sorbonne, deuxième version. Emmanuel Macron a promis de fixer ses ambitions pour l'Europe dans la célèbre faculté parisienne jeudi prochain, comme en septembre 2017. Le président de la République l'a confirmé lors d'une conférence de presse à l'issue du Conseil européen à Bruxelles.
Europe 1 Nuit, Maël Hassani.
L'État est très vigilant quant à une vente éventuelle de Biogarant. Déclaration du ministre chargé de l'Industrie, Roland Lescure, alors que la filiale du laboratoire pharmaceutique français Servier pourrait être vendue. Parmi les 4 candidats en lice pour le rachat, 2 entreprises sont indiennes. De possibles délocalisations dans ce secteur stratégique posent question, alors que la souveraineté sanitaire de la France est une priorité affichée par le gouvernement depuis le Covid. Autre domaine dans lequel la France espérait retrouver sa souveraineté, les panneaux photovoltaïques. L'objectif est d'en produire 40% dans l'Hexagone avant la fin de la décennie. Mais c'est plutôt mal parti parce que l'une des 2 entreprises françaises spécialisées dans ce domaine vient d'être placée en liquidation judiciaire. Il s'agit de Systovie. Dans l'usine de Carquefou, près de Nantes, les salariés regrettent cette défaite face à la concurrence asiatique. Charles Guyard.
Officiellement, on doit arrêter la production demain. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les machines n'ont pas tourné parce que le cœur n'y est plus.
Et pour cause, le couperet est tombé hier, 15 ans après son lancement. Faute de repreneur, Systovie doit mettre la clé sous la porte. Et Fabien, lui, ne veut même plus entendre parler du photovoltaïque à la française.
Pour l'instant, pour moi, le solaire, j'ai pas envie d'y remettre les pieds. On est un peu dégoûté de voir que le solaire en France ne profite pas au Made in France.
Non, c'est la Chine aujourd'hui qui, avec une politique de prix très agressive, a totalement anéanti la concurrence dans l'Hexagone alors que des solutions existaient pour protéger la production locale. Paul Toulouse, le directeur de Systovie.
On a laissé la Chine planifier une hégémonie et maintenant on court derrière pour rattraper le leader mondial. Force est de constater qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mesure. Tous les projets reçoivent une subvention d'à peu près 1 000 euros. Conditionner cette subvention-là à l'achat de panneaux fabriqués en France ou en Europe permettrait simplement de restaurer une égalité de prix entre des panneaux chinois et des panneaux français. Ça, c'est une mesure qu'on a demandée, qui n'a pas été mise en place. Mais on sait que c'est possible puisque ça a été mis en place par exemple pour les pompes à chaleur. Il y a des choix politiques qui sont posés. C'est des sujets qui me dépassent.
Et au total, 81 salariés se retrouvent sans emploi. Il ne reste plus en France qu'un seul fabricant de panneaux solaires en Alsace.
Le reportage européen de Charles Guyard sur le site de Systovie à Carquefou en Loire-Atlantique. Des dromadaires, des chameaux et autres lamas défileront bel et bien à Paris samedi, mais au bois de Vincennes. C'est ce qu'indique un arrêté de la préfecture de police de Paris publié aujourd'hui. Ce curieux rassemblement organisé par la Fédération française pour le développement des camélidés en France devait d'abord se tenir sur les quais de Seine en passant devant la Tour Eiffel, mais la préfecture l'avait interdit en raison notamment des conséquences de la densité urbaine sur la santé des animaux. Les associations de défense des animaux étaient également vent debout contre ce projet. Vous écoutez Europe 1, il est 22h09 et c'est peut-être le moment d'aller au lit pour vous qui nous écoutez. Mais si vous faites partie des 15 à 20% de Français qui souffrent d'insomnie, une molécule va peut-être vous changer la vie. C'est un somnifère d'un nouveau genre, avec moins d'effets secondaires, si bien qu'il peut être prescrit sur une longue durée. Yasmina Katou, ce traitement récemment autorisé en France ne fonctionne pas comme les somnifères classiques.
Oui, les somnifères classiques ont un effet sédatif qui va provoquer un endormissement forcé. En revanche, le daridorexan, lui, agit sur la période d'éveil, explique Pierre-Alexis Geoffroy. Il est professeur de psychiatrie en neurosciences au groupe hospitalier Paris et à l'hôpital Bichat.
Ce nouveau traitement va antagoniser une molécule qui est l'orexine. C'est un neurotransmetteur dans le cerveau qui permet de rester éveillé. Comme dans l'insomnie, on est hyper éveillé. En diminuant l'activation de ce réseau à orexine, on va diminuer cette proportion à être éveillé.
Résultat, les consommateurs ne sont pas assommés. Le matin, le réveil est aussi facile. Et contrairement au traitement habituel, il peut être prescrit au-delà de 28 jours.
Là, on n'a pas d'accoutumance avec ce nouveau traitement. Et il n'y a pas de rebond non plus. C'est-à-dire qu'à l'arrêt de ce traitement, il n'y a pas une résurgence importante de l'insomnie.
Le daridorexan est réservé aux personnes qui n'ont pas eu de résultat après une psychothérapie pour améliorer le sommeil et qui souffrent d'insomnie depuis plus de 3 mois.
Yasmina Katou, spécialiste santé à la rédaction d'Europe 1. En football, l'Olympique de Marseille tente de décrocher une place pour les demi-finales de la Ligue Europa, en ce moment au Vélodrome contre le Benfica Lisbonne. Pour le moment, c'est pas gagné. Il y a toujours 0-0 après 50 minutes de jeu. Et à l'aller, je le rappelle, le club portugais s'était imposé 2-1. Et malheureusement, en Ligue Europa Conférence, eh bien, c'est fini pour Lille, battu en quart de finale retour par Aston Villa au tir au but. Vous écoutez Europe 1, il est 22h11. Place maintenant à l'invité politique. Thomas Schnell reçoit la ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles, Sarah El-Haïry.
Le lancement d'une grande concertation contre la violence des jeunes, délai de 8 semaines, le travail sera collectif avec un premier point d'étape d'ici 4 semaines. Bonsoir Sarah El-Haïry.
Bonsoir.
Ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse et de la famille, on a entendu Gabriel Attal présenter une série de pistes pour lutter notamment contre les élèves perturbateurs. Il parle d'addiction à la violence. Alors l'addiction, selon le Larousse, c'est un processus de dépendance plus ou moins aliénante à des toxiques ou à des comportements. C'est le cas ?
Aujourd'hui, malheureusement, oui, c'est le cas. Nous avons une grande majorité de jeunes qui vont bien, qui s'engagent, dont on est fiers. Et on a une minorité qui aujourd'hui glisse dans l'ultra-violence. Alors nous avons besoin d'un plan, d'un sursaut d'autorité partout, à la maison, à l'école et dans la rue. Et l'idée de ce plan, c'est d'apporter des réponses en prévention, mais aussi en sanction, d'accompagner les enfants et les parents, mais d'accompagner aussi sur des réponses immédiates et puis des réponses à plus long terme, puisque ça commence dès le plus jeune âge et dès l'école.
On a vu des événements violents ces dernières semaines, Viry-Châtillon, Montpellier, Grande-Synthe. Gabriel Attal blâme les réseaux sociaux qu'il qualifie d'accélérateurs, de catalyseurs de haine. Est-ce que c'est la faute des réseaux sociaux ou est-ce que ce sont un symptôme ?
Vous savez, les réseaux sociaux, c'est un nouveau risque, c'est un nouveau défi qui se pose aux parents, aux familles et à notre société tout entière. Ce qui est certain, c'est que oui, ça accélère la violence. On le voit sur le harcèlement, il ne s'arrête plus à la sortie de l'école, il rentre jusque dans votre chambre, c'est le cyberharcèlement, c'est pour ça qu'on a fait évoluer la loi sur les règles numériques par exemple, ou encore la majorité à 15 ans pour le numérique. Sauf que les réseaux sociaux, c'est aussi malheureusement des meutes, des raids, de l'extra-violence qui désinhibent. Et donc du coup, dans cet espace où tout est désinhibé, les réactions et les conséquences sont parfois mortelles. C'est pour ça que le Premier ministre l'a rappelé, il n'y a pas de droit de tabasser, la violence n'a pas sa place. Et pour ça, il nous faut ce sursaut d'autorité et il faut remettre un cadre, des repères. Vous savez, on ne grandit pas droit si on n'a pas ce cadre. Et ce cadre, il s'apprend à l'école, mais aussi à la maison. Et nous souhaitons accompagner les parents, ceux qui se sentent débordés parfois par leurs propres adolescents, et rappeler à l'ordre les parents qui ont déserté leurs obligations éducatives. Pour ça, il y a différents outils que nous souhaitons bien sûr mettre à la concertation ou développer.
Alors justement, parmi les pistes avancées, il y a celle du collège non-stop de 8h à 18h pour les collégiens. On a les moyens, Sarah El-Haïry, de garder les enfants de 8h à 18h ?
Pour nos enfants, bien sûr qu'il faut mettre les investissements nécessaires. Plus que jamais, c'est un des meilleurs investissements qu'on puisse faire. Un enfant, et un collégien en particulier, n'a rien à faire dans la rue. Il doit apprendre, soit dans une asso, après l'école, soit à la maison. Mais l'essentiel, c'est que de 8h à 18h, au-delà des cours, au-delà de l'enseignement, il puisse faire plus de sport, ses devoirs, de la culture, du théâtre, peu importe. On mettra des moyens avec des associations d'éducation populaire.
Quels moyens ? On manque d'enseignants dans les classes aujourd'hui. On a du mal à remplacer les professeurs. Comment on fait en sorte qu'ils restent, qu'ils acceptent de rester ? On parle d'heures supplémentaires. C'est des enseignants qui vont accepter des heures supplémentaires pour garder les élèves ?
Alors, Il y a plusieurs pistes. Évidemment, il y a tout ce qui a été lancé avec PACTE pour permettre aux enseignants qui le souhaitent plus de missions. Ça, c'est le premier point, mais il est loin d'être unique. Il y a toute l'éducation populaire. Vous savez qu'aujourd'hui, on ouvre l'école aussi aux associations. C'est notre souhait, notre volonté. Et on peut faire intervenir des éducateurs, des animateurs pour travailler. Par exemple, c'est ce qu'on fait sur les devoirs faits pour que les collégiens, quand ils rentrent à la maison, leur devoir soit déjà fait, déjà travaillé, en tout cas soutenu. On pourra faire ça avec du théâtre, du sport ou encore de la culture. C'est bien sûr pas sur les seules épaules des enseignants, bien au contraire. C'est pour ça que ce plan, sa force, c'est qu'on remet autour de la question de l'autorité l'ensemble des adultes qui entourent les enfants. Et donc l'autorité, elle vient bien sûr avec l'enseignant, mais aussi et uniquement si, le message qui est porté, il est clair pour les élèves, pour les enfants, et que les adultes, qu'ils soient sportifs, animateurs ou parents, tiennent le même cadre. Et c'est pour ça qu'un adolescent, c'est normal qu'il vienne frotter le cadre. Encore faut-il qu'il soit clair et ferme.
Je reste sur ce collège de 8h à 18h. Est-ce que ça ne va pas pénaliser les autres élèves, ceux qui ne sont pas oisifs, ceux qui ne sont pas dans les rues, qui pourraient avoir des activités après l'école ?
Non, bien sûr que non, puisque ceux qui ont des activités après l'école, il y a une réflexion qui vient accompagner, encore une fois, c'est de ne laisser personne tout seul ou face à cette oisiveté qui est la mère de tous les vices. L'idée, elle est là, c'est d'accompagner ces enfants qui, malheureusement, ne font rien après l'école ou se retrouvent devant les écrans tout seuls, à rester des heures devant un téléphone portable ou une tablette, ou ceux qui traînent dans la rue. L'idée, elle est là. Et pour ça, on peut reprendre la lecture, on peut participer aussi aux tâches de l'établissement, on peut trouver des projets, et tout ça se fera en bonne intelligence avec les proviseurs et avec les établissements. Mais encore une fois, on a commencé à le faire, ça marche. Maintenant, nous souhaitons l'étendre à l'ensemble des établissements d'éducation prioritaire, dans les quartiers et dans notre ruralité. Et puis après, d'ici la rentrée prochaine, l'élargir partout en France. Et encore une fois, c'est une chance pour les enfants, pour tous ceux qui, aujourd'hui, ne font rien.
Et la mention spécifique dans Parcoursup pour ceux qui perturbent les cours, ça va vraiment les effrayer? Ce ne sont en général pas eux, ces perturbateurs qui ambitionnent de hautes études. C'est ça, notamment, qui peut les faire renoncer à perturber les cours?
Vous savez, dans la proposition faite par le Premier ministre, les sanctions sont graduelles. La meilleure des préventions, une des meilleures en tout cas, c'est la certitude de la sanction. Et les sanctions, elles sont graduelles, ça veut dire quoi? Installer des conseils de discipline plus forts, les perturbateurs et les très grands perturbateurs ont vocation à quitter l'établissement, c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec, par exemple, les harceleurs, ça c'est le premier point. La mention sur Parcoursup ou sur les diplômes, c'est une sanction supplémentaire. Uniquement d'ailleurs, si l'enfant ne revient pas sur le droit chemin et ne tourne pas droit. On lui proposera de se rattraper, on lui proposera de s'investir et donc finalement des mesures éducatives. Mais s'il ne saisit pas cette opportunité-là, alors oui, il y aura une sanction nouvelle qui a vocation à être dissuasive, qui est celle de la mention sur Parcoursup ou évidemment sur son diplôme. C'est une sanction supplémentaire, on va y travailler avec la ministre de l'Éducation nationale, bien sûr, mais sachez que quand on a envie de faire des études après, ou en tout cas choisir un diplôme, on a conscience que ça aura des conséquences. Ce qui est certain, c'est que rien ne reste impuni, avec des réponses graduelles, bien sûr, et surtout en investissant aussi sur la partie prévention avec les parents et avec les enseignants.
Le volet judiciaire à présent de ces pistes de réflexion. Sarah El Haïry, le Premier ministre, a parlé de comparution immédiate devant un tribunal à partir de 16 ans. C'est la place d'un jeune de 16 ans aujourd'hui dans un tribunal?
Ce qui est certain, c'est que la meilleure des sanctions, c'est quand elle est la plus rapide. C'est un volet éducatif que d'avoir une réaction la plus rapide possible et la plus immédiate. Le Premier ministre a souhaité que le garde des Sceaux ouvre les discussions sur, bien sûr, les comparaisons immédiates dès 16 ans, en tout cas de voir l'opportunité d'étudier cette possibilité, de voir la question plus largement de rapprocher la punition de l'acte du fait. Pourquoi ? Parce que c'est préventif, parce que c'est éducatif. Plus vite il y a la sanction, mieux c'est. Il se trouve qu'on a déjà fait, sous le mandat précédent, la réforme de l'ordonnance de 40 qui permet aujourd'hui d'avoir des réponses extrêmement rapides. Il y a encore quelques années, il se trouve que quand un jeune mineur était condamné, sa sanction arrivait quasiment quand elle devenait majeure. C'est beaucoup trop long. Dans la tête d'un adolescent, il ne fait même plus lien entre sa bêtise ou l'acte grave qu'il a fait et la sanction qu'il subit.
La menace de la sanction donc ferait prendre conscience, c'est ça, dissuaderait?
plus rapidement, en tout cas la certitude de la sanction, est une réalité, est une prévention.
Voilà pour cet entretien avec Sarah El Haïry, la ministre chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles. Entretien réalisé par Thomas Schnell dans Europe 1 Soir. Un mot des marchés financiers. Le CAC 40 qui retrouve la barre symbolique des 8000 points. Clôture à 8023 points ce soir grâce à une hausse de 0,5%. Et du côté de Wall Street, c'est une clôture en ordre dispersé aux États-Unis. Plus 0,08% pour le Dow Jones et moins 0,52%. Pour le Nasdaq. La météo désormais avec vous Marlène Duret. Retour du soleil sur la moitié sud du pays demain.
Oui, en Provence, en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine, sur une grande partie de l'Auvergne-Rhône-Alpes, il faudra attendre l'après-midi pour la Corse. Et puis les belles éclaircies dans le Val-de-Loire ou encore vers le pays nantais ne seront que temporaires. Voilà, partout ailleurs en allant vers le nord, donc beaucoup de nuages. On a le bout d'une perturbation présente en Allemagne qui va arroser la région Grand Est. Elle va donner de la neige à partir de 700 mètres sur les Vosges. Et puis progressivement, on a des averses qui vont descendre depuis les Hauts-de-France, la Normandie. Elles vont gagner l'Île-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté dans l'après-midi. Quant aux températures, couvrez-vous demain matin. Il va faire froid. L'après-midi, pour les maximales, allez, comptez en général 11 à 16 degrés. Un peu plus dans le sud, sous le soleil, forcément, sous le soleil. Il fera 17 à 20 degrés, donc dans les régions méridionales, jusqu'à 23 à Perpignan. Et notez quand même que les températures vont baisser ces prochains jours, en particulier en début de semaine. Je pense à la journée de mardi, avec le matin une moyenne de 2 degrés au nord et de 4 au sud. On a donc naturellement une pensée compatissante pour les arboriculteurs et les viticulteurs français.
Pensez effectivement à eux. Merci beaucoup Marlène Duret. Vous écoutez Europe 1, il est 22h21. Place maintenant à la libre antenne jusqu'à 1h du matin comme tous les soirs et c'est avec Olivier Delacroix.
Bonsoir, bonsoir mon cher Maël, comment allez-vous?
Mais très bien, je vous remercie.
Bon, comment s'est passé ce petit journal?
Eh bien écoutez, de la meilleure des façons, enfin j'espère. J'espère.
Ah ben, il était comme d'habitude.
C'est à vous de me dire, aux auditeurs.
Ça s'est bien passé.
Oui, je crois bien.
Sauf que je suis toujours, je vais vous dire, il y a quelque chose qui me hérisse le poil encore ce soir, donc je suis obligé de vous le confier, de vous le partager. Ce gouvernement, le gouvernement Macron, depuis qu'il est au pouvoir, dès qu'il y a un problème qui pointe le bout de son nez, allez, on fait un Grenelle.
Alors, c'est le mot Grenelle n'est pas employé, mais c'est tout comme ça, c'est un cycle de concertation.
On y va tout droit. Mais est-ce que ces gens sont allés voir dans la rue comment ça se passe? Est-ce que ces gens sont allés par eux-mêmes se rendre compte de ce qu'il faut faire aujourd'hui pour rattraper et secourir cette jeunesse violente? On en parle souvent dans ma petite libre antenne depuis un moment, les faits divers mêlant de jeunes gens très très violents. Et hier, ils ont tué des gamins de 14 ans, ont tué un jeune homme de 22 ans. Je vais vous dire combien de morts il va falloir pour que ces gens-là se rendent compte de tout ça. C'est ce qui aujourd'hui me fait dresser le poil. Aller faire une concertation, mais une concertation de quoi? Je pense que ce type de déclaration, notre très jeune Premier ministre ne se rend pas compte de l'abîme et de la détresse dans laquelle cela plonge les gens qui, à l'écoute de ça, sont pétrifiés, en fait. Se disent qu'ils ont des gouvernants qui sont complètement largués, en fait. Voilà ce que je voulais dire, je ne vais pas être très long, mais on l'évoque souvent le soir dans la libre antenne. On l'a évoqué hier soir avec une maman, Stéphanie, dont la fille s'est pendue à l'âge de 16 ans en 2021 à cause de harcèlement des réseaux sociaux. Donc encore une autre forme de violence et on va faire des grenelles. Allons-y, faisons des grenelles. Dépensons en plus beaucoup d'argent pour faire ces grenelles, pour ne pas avancer. Je vous rappelle une chose, parce que je ne parle pas sans avoir de référence, il y a eu un Grenelle il y a 4 ans, 4 ou 5 ans, sur les violences faites aux femmes.
Qui s'est terminé en 2019.
Voilà, rien n'a avancé pratiquement. Rien, Maëlle. Alors qu'à côté, on a l'Espagne et un chemin tout tracé, une législation tout tracée. Non, nous on fait des Grenelles. Nous faisons des Grenelles. Alors que nos cousins espagnols arrivent à zéro tolérance pour les hommes violents, et des chiffres tout à fait remarquables en termes de violences faites aux femmes, mais non, nous, nous faisons des Grenelles. Eh bien, continuons à en faire des Grenelles. Il est 22h24 et nous nous retrouvons tout à l'heure pour un nouveau tour de l'info à partir de 23h, Maël.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe 1, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle et bonne journée, chers amis, et que vous êtes maintenant bien installés, puisque nous sommes ensemble pratiquement pour 2h35 à échanger ensemble, à découvrir vos témoignages et à savoir comment et pourquoi vous affrontez une épreuve ou une problématique dans votre quotidien. Je vous rappelle que si vous avez un problème dans votre vie, si vous affrontez une problématique dans votre famille, si vous êtes, comme je vous l'ai dit, amoureux, amoureuse, ou alors que vous désirez faire la rencontre de quelqu'un, mais que vous n'osez pas vous prononcer dessus ou vous présenter, n'hésitez pas à nous appeler et peut-être nous ferons un bout de chemin ensemble. Nous sommes là en tout cas pour vous écouter, je vous le rappelle, et pour échanger et vous aider peut-être à poser les choses. Et pour celles et ceux qui écoutent, ils continueront à identifier ici et là des moments de leur vie, des problématiques de leur vie. Et c'est ce pourquoi cette libre antenne aujourd'hui est la vôtre et que vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter. Et toujours plus nombreux et nombreuses à nous écouter sur Europe 1, puisque les chiffres d'audience de la radio ont été publiés aujourd'hui par Médiamétrie et la famille Europe 1 s'agrandit encore. Nous sommes très heureux de souhaiter la bienvenue aux 223 000 nouveaux auditeurs qui écoutent Europe 1 tous les jours. Au total, vous êtes donc désormais 2 387 000 à écouter Europe 1. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité toute la journée et pour votre confiance. Vous êtes des centaines de milliers, voire des millions pour certains podcasts du studio Europe 1 et des podcasts d'Europe 1. Merci aussi de reconnaître ce travail des plus instructifs et des plus sérieux que fait le studio Europe 1 avec ses podcasts. Et puis, enfin, je ne pouvais pas ne pas parler des 214 000 auditeurs et auditrices qui écoutent en moyenne chaque jour la libre antenne. Vous êtes 19 000 nouveaux auditeurs et auditrices à nous avoir rejoints. Soyez les bienvenus et puis merci à tous les autres et toutes les autres pour votre fidélité. Je vous le rappelle, j'ai échangé avec Hélène tout à l'heure, qui est une amie journaliste qui vient souvent nous voir, et je lui disais que ce chiffre célébrait aussi, et c'est grâce à vous, hein, un espace de parole où nous donnons la parole aux plus invisibles d'entre nous, souvent des personnes qui à qui on ne donne jamais la parole, que on n'entend jamais et nulle part. Alors vous y intéressez, et quelque part dans cette société où les extrêmes affrontent souvent les extrêmes, il n'y a plus beaucoup de place pour la sagesse, pour l'humilité. Sur cette libre antenne, c'est ce que je crois vous venez chercher. C'est ce que vous apprenez, et je vous en remercie. C'est le travail de toute une équipe, de Julia Freund, de Florian Lanoir, de Laurent Pellet, et puis le week-end, bien évidemment, le travail de Valérie Darmon et de toute son équipe. 7 jours sur 7, cette libre antenne, c'est pour vous. Et comme dit Pascal Praud, qui nous a rejoint depuis septembre et à qui nous devons aussi beaucoup pour l'excellence de son travail, eh bien, c'est vous qui êtes le plus important pour nous, chers amis, ne l'oubliez pas. Et je suis sûr qu'à la prochaine vague, les prochains chiffres, vous serez encore des milliers à nous rejoindre. Partagez Europe 1, parlez d'Europe 1, parce que c'est ici que ça se passe. Votre libre antenne du jeudi, c'est parti.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et puis, bien sûr, vous le savez, 01 80 20 39 21 pour nous joindre, 7 39 21 suivi du mot nuit, écran lettre majuscule suivi d'un espace pour vos SMS, libreantenne@europe1.fr pour vos mails, et puis vous nous écrivez vos courriers postaux de rue des Cévennes, ici à Europe 1. Et puis je crois que c'est à peu près... il y a le groupe Facebook, bien évidemment, où nous accueillons aujourd'hui 7 nouveaux membres. 19 894 membres forment cette communauté numérique de la Libre Antenne. Merci pour votre fidélité et bienvenue aux petits derniers arrivés. Nous accueillons Gabriel maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Gabriel que je vais... présenté, car c'est nous qui l'accueillons ce soir sur notre demande. Gabriel qui a 30 ans et qui s'est donné pour mission de sensibiliser les jeunes au métier manuel. Elle est directrice générale et fondatrice de l'association De l'or dans les mains. Et Gabriel va nous parler de cette vocation hein, et du sens qu'elle donne aujourd'hui à sa vie. Bonsoir Gabriel.
Bonsoir.
Bonsoir alors, voilà, je vous ai bien introduit, je n'ai rien oublié.
Non, pas du tout.
D'accord. Alors, De l'or dans les mains, qu'est-ce que c'est que cette association et depuis quand et pourquoi l'avez-vous créée ?
Donc la mission de l'association, c'est de réintégrer la pratique manuelle à l'école, particulièrement au collège,
oui.
Parce qu'on est dans un système scolaire aujourd'hui qui a vraiment créé une rupture entre les apprentissages académiques et la manipulation et la pratique manuelle et ce qu'on appelle l'intelligence manuelle.
Oui.
Donc voilà d'où est née cette association. C'était l'idée de dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de manufactures et d'ateliers qui sont face à de grandes difficultés de recrutement.
Ah bon, d'accord. Okay.
Dans les entreprises artisanales, aujourd'hui, on a des chiffres qui sont assez alarmants. C'est-à-dire que, tout simplement, à cause de la mauvaise information des jeunes, on a 65% des jeunes qu'on accompagne qui ne connaissent aucun des métiers qui leur sont présentés. Et aujourd'hui, on a quand même, d'ici 10 ans, on a 300 000 entreprises artisanales à reprendre d'ici 10 ans. Et en fait, ce sont un peu les mêmes problématiques qu'on retrouve dans le monde agricole.
Oui.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne n'a vraiment eu envie de faire ces métiers-là parce qu'on a souhaité devenir une société d'intellectuels, en fait,
oui.
Où on a vraiment... dénigrer la voie professionnelle et se dire qu'on n'avait plus besoin d'avoir d'usines et de gens qui font dans notre pays. Aujourd'hui, on en revient.
Mm-hmm.
Ça fait quand même quelques années qu'on a même des politiques publiques qui veulent réindustrialiser le pays, mais ce qui est vrai, c'est qu'on part de très loin et qu'aujourd'hui, les jeunes connaissent très peu ces métiers-là. Donc, De l'or dans les mains va être là à la fois pour susciter des vocations et aussi pour replacer l'intelligence manuelle au cœur du système scolaire en travaillant main dans la main avec des enseignants pour qu'en fait, la menuiserie, la mécanique, la vannerie, la couture, ça puisse en fait venir nourrir les apprentissages académiques.
Vous disiez l'industrie disparue. En fait, est-ce que c'est cette industrie dont on s'est rendu compte que nous avions laissé un peu tomber l'industrie depuis une trentaine d'années en France et finalement... c'est la disparition de tout un tas de métiers et de formations qui ont disparu en même temps ?
Absolument. Sauf qu'aujourd'hui, on en a besoin. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que la mondialisation touche ses propres limites.
Oui, oui.
Finalement, faire produire des objets à bas coût dans d'autres pays loin de chez nous qui épuisent des ressources locales, ça n'a plus forcément de sens.
Mm-hmm.
Et que si demain on veut pouvoir fabriquer des maisons qui sont résilientes face aux aléas climatiques, fabriquer des assiettes pour nos maisons qui ne sont pas faites à l'autre bout du monde, il va falloir former et replacer aussi ces manufactures au cœur de nos dynamiques économiques, sociales, territoriales, etc.
Mmh. Alors moi j'avais, Gabriel, j'avais des... travaux manuels quand j'étais plus petit. Ça n'existe plus, ça ?
Oui, vous avez sans doute connu ce qu'était l'EMT, l'enseignement manuel et technique.
Oui, exactement.
Ouais. Non, ça n'existe plus. Donc après, ça a été remplacé par la technologie, qui a longtemps été des programmes vraiment avec de la manipulation. Enfin, moi, j'ai fait un petit peu de soudure, je me souviens, je fabriquais des frisbees lumineux, des choses comme ça, mais en fait, tout ça a drastiquement été réduit à peau de chagrin. Aujourd'hui, en technologie, on fait principalement de la programmation. informatique, mais vraiment quasiment plus du tout de pratique manuelle. Et puis, enfin, c'est une matière qui a été très dénigrée ces dernières années, qui a été supprimée en classe de 6e par volonté politique. Donc, en fait, aujourd'hui, il reste un petit peu la technologie et les arts plastiques qui sont en fait considérés comme des sous-matières, où le jeune peut exercer sa créativité et l'intelligence de ses mains.
On s'en aperçoit aujourd'hui. Moi, j'habite à la campagne, vous voyez, et je m'aperçois que quand on veut faire réparer un petit truc aujourd'hui, mais toutes ces micro-entreprises qu'on trouve sur Internet maintenant, hein, des petites entreprises, c'est-à-dire il y a un patron hein, qui est tout seul, généralement, où ils sont deux, ils ont un carnet d'adresses, ils ont un emploi du temps presque de ministre aujourd'hui, en fait.
Ah ben oui, si vous voulez refaire votre toiture, il faut attendre 4 ans.
Ouais, c'est incroyable. Est-ce qu'on s'est aperçu de ça depuis le Covid ?
Alors oui, je pense qu'en fait, avec le Covid, on a un peu plus regardé ce qu'il y avait autour de chez soi.
Oui.
On a aussi un petit peu vu une limite quand les échanges internationaux se sont arrêtés. Après, je pense que c'est un sentiment, c'est l'âme de fond. Qui quand même émerge depuis même un petit peu avant le Covid. Je pense que la question du sens aussi de son travail, il y a quand même toute une génération de catsup, diplômés de grandes écoles qui finissent par se rendre compte que finalement ils ont envie de peut-être mettre d'un peu plus de sens et de palper en fait les raisons ou la finitude de ce qu'ils font. Mais en effet, le Covid a certainement accentué cette prise de conscience.
D'où vous vient, vous, ce goût pour l'artisanat, Gabriel ?
De plusieurs choses. Moi, d'abord, j'ai grandi à la campagne, donc dans un village en Touraine, où quand vous avez déjà plus de services publics et qu'il vous reste des ateliers, des manufactures qui ferment peu à peu parce que en fait, il n'y a pas de repreneurs. Parce que c'était bien ça le problème, c'est que il y avait un marché, mais il n'y avait pas forcément de repreneurs. Il y a quelque chose. Enfin, moi, je l'ai vu et ça délite, ça abîme un territoire et ses dynamiques sociales et culturelles, ses lieux de socialité aussi. Voilà, j'avais un tonton. Enfin, j'ai toujours un tonton compagnon, tailleur de pierre. Donc, moi, j'ai vraiment grandi dans cet univers où je vivais à côté d'un agriculteur. Et il y avait toujours des artisans à la maison pour réparer des choses, pour prêter leur tracteur, pour prêter leur bétonnière, voilà, des choses comme ça. Et par ailleurs, moi, j'ai une scolarité un peu cabossée, notamment au collège. Et en fait, j'ai compris beaucoup plus tard que c'était simplement que j'étais pas forcément formatée à l'intelligence académique et que le système scolaire fait que quand on coche pas certaines cases, on se retrouve facilement sur le côté.
D'accord.
Et puis ensuite, moi, je suis partie faire mes études à Paris. Et là, en arrivant à Paris, notamment à Sciences Po, j'ai découvert qu'il n'y avait pas du tout de culture ni artisanale ni agricole et que c'était quand même un petit peu problématique dans des instances où on est censé former des futurs dirigeants qui vont avoir une influence sur les politiques publiques.
Oui, et qui vont avoir une influence sur les politiques publiques. Et quand on a cette vocation et cette mission, mieux vaut être au courant des choses quand même, enfin un minimum.
Oui, et en même temps, on ne peut pas leur en vouloir aux fonctionnaires de se dire que en fait, leur système scolaire a créé une rupture entre ses fondamentaux, entre le lien avec la terre, avec à savoir comment sont structurées les filières artisanales. Et du coup, ils n'ont pas forcément les bonnes clés pour créer des politiques publiques solides. Et donc, c'est un peu de là où il est devenu de l'or dans les mains. C'est-à-dire que moi, je suis sortie d'une école où s'il y a un truc qu'on nous apprend bien, c'est à créer des politiques publiques pour combler des trous dans la raquette. Et donc, avec de l'or dans les mains, je me suis demandé... il y a un problème de connaissance de ces métiers au sein des systèmes scolaires. Qu'est-ce qu'on fait? Déployons des programmes d'initiation à la pratique manuelle adossés au programme scolaire en faisant venir des artisans dans les établissements scolaires qui vont faire fabriquer un objet aux élèves en lien avec leur programme de maths, de physique-chimie, d'histoire, de géographie. Donc, c'est comme ça qu'on a, voilà, on a des programmes où on a un menuisier qui va intervenir, faire fabriquer un nichoir en bois à des élèves en lien avec leur programme de maths, donc le calcul des airs, la trigonométrie. Et puis ensuite, ils vont faire de la dorure à la feuille avec une artisane. Et là, ils vont aborder pourquoi Louis XIV a voulu que Versailles soit vraiment doré. Qu'est-ce que ça signifiait finalement l'or? Et puis après, ils vont faire de la céramique Là, donc, on va travailler avec le programme de physique chimie. C'est pourquoi est-ce que le solide devient liquide? Ah bon, et la céramique, en fait, c'est la terre qui a sous nos pieds, c'est du kaolin. En quoi est formé le kaolin? Et c'est comme ça qu'on essaye un petit peu d'irriguer, de réintégrer ce concept, enfin, cette pratique manuelle au sein des établissements scolaires.
Est-ce que c'est aussi la vocation de recréer une égalité pour les jeunes issus des milieux ruraux, en fait, pour les jeunes ruraux?
Alors, c'est marrant que vous posiez la question parce que c'est un vrai sujet, l'accès, la révélation du potentiel des jeunes des zones rurales, qui en fait, quand ils grandissent à l'adolescence, sont confrontés à des obstacles beaucoup plus nombreux qu'un enfant qui va grandir dans une métropole, qui sont l'accès à des stages, l'accès à des opportunités professionnelles, l'accès à des rôles modèles, à l'information. Et qu'en fait, quand on est un jeune ruraux, si on veut faire des études supérieures, mais que ça soit un CAP bijoutier ou une prépa pour faire des écoles d'ingénieurs, en fait, il faut bouger. Donc, c'est la question de la mobilité. Et pour bouger, il faut avoir des parents qui ont les moyens de vous payer un logement, en fait, dans la ville la plus proche.
Oui, oui, oui.
Moi, je pense pas qu'il faille dire que ce soit que pour les ruraux, hein, l'artisanat. En revanche, on travaille beaucoup dans des établissements ruraux pour faire prendre conscience aux élèves que oui, quand on habite en Bourgogne, eh bien oui, la céramique, ça fait partie de l'identité de son territoire et que c'est chouette de savoir que les assiettes qu'il y a chez notre grand-mère et qui sont fabriquées à la manufacture de Divoin, eh bien, elles sont faites à partir d'un sol qui est sous nos pieds.
Oui.
Donc c'est tout un travail aussi de dire à ces jeunes... C'est bien de désirer en fait la vie en ville, dans des grandes métropoles où les séries américaines nous font croire qu'en un claquement de doigts, on peut être à Tokyo, à Paris, à New York et que c'est ça le bonheur. Et que finalement, il y a d'autres formes de réussite et d'autres formes de réalisation de soi. Mais moi, je veux aussi qu'on aille voir des élèves qui sont dans les collèges parisiens, à qui on dit forcément... que réussir, c'est faire polytechnique et à qui il faut absolument montrer d'autres voies de réalisation de soi. Parce que c'est pas parce qu'on est très très bon en maths et qu'on ne peut être qu'ingénieur. En fait, on peut être un très très bon menuisier, devenir meilleur ouvrier de France, faire des meubles qui entrent dans les collections du mobilier national et très bien gagner sa vie.
Et pour ça, vous vous y prenez comment alors? L'association, elle s'y prend comment en fait?
Donc nous on a un programme et les établissements scolaires peuvent postuler à notre programme pour qu'on le déploie au sein de leur établissement. Donc ils peuvent candidater. Donc ce programme, c'est un programme de 15 heures qui s'articule à la fois autour de temps en classe où l'enseignant va aborder nos outils pédagogiques, donc des cahiers qui font le lien entre un problème de maths, un problème de physique chimie, une BD et l'artisanat. Donc il y a une préparation en cours et puis nous ensuite on va intervenir sur des créneaux qui sont plusieurs fois dans l'année qui sont définis, qui s'adossent à un temps que les établissements scolaires ont obligation de consacrer à ce qu'on appelle la découverte des métiers. Et là, on va débarquer avec une armée d'artisans et il y a des ateliers de pratiques manuelles qui vont avoir lieu.
Vous sentez que les jeunes adhèrent au travail manuel?
Oui, mais parce qu'en fait, quand vous mettez... quand vous faites prendre conscience à un enfant de 12 ans qu'il est capable avec ses mains de faire apparaître un objet sur Terre à partir des ressources locales, en fait, il y a de l'émerveillement, il y a de la créativité, il y a de la fierté, il y a de la confiance en soi. Donc forcément, ça crée quelque chose d'assez magique. Ils entrent un peu dans une aventure avec ce programme et même si on ne suscite pas que des vocations, on permet à ces élèves de prendre conscience qu'ils ont des capacités manuelles et que c'est une compétence comme une autre et qu'elle a de quoi être valorisée.
D'accord. Et les filles aussi, je suppose, ce sont les deux, les filles adhèrent aux travaux manuels. Vous remarquez que beaucoup de filles adhèrent aux travaux manuels?
Oui. Alors en fait, c'est marrant, au début, les élèves pouvaient choisir les ateliers qu'on proposait. Donc en fait, on avait les filles en broderie et les garçons en taille de pierre. C'est-à-dire, on est en 2024 et les stéréotypes de genre sont toujours aussi importants. Donc maintenant, En fait, c'est arbitraire, c'est-à-dire que les élèves ne peuvent plus choisir les métiers qu'ils vont découvrir dans leur année, mais ça leur est imposé. Mais en fait, tout le monde se prête quand même vraiment au jeu. Enfin, on a des filles qui font de la taille de pierre avec des tailleurs de pierre et qui sont juste épatées de voir que sous leurs mains, sous leurs outils, elles peuvent faire apparaître une sculpture sur la pierre de Tuffeau.
Oui.
Et donc, on a des filles dans des collèges qui montent des parpaings, qui enduisent des murs. Et on a aussi des garçons qui se révèlent des brodeurs très minutieux et ça épate très souvent les artisans qui sont là.
Mmh. Bah, de toute façon, il y a de plus en plus de filles qui font des travaux dans le bâtiment. Hein. J'en vois de plus en plus. Je pense notamment à la peinture, la peinture en bâtiment, la mécanique, qui sont deux, c'est le hasard qui fait les choses, mais je connais des entrepreneurs et des artisans. Et il y a de plus en plus de femmes et de jeunes filles qui candidatent pour être embauchées. Et ça, oui. ça m'a beaucoup pétonné, mais en fait, ça fait plusieurs années que je remarque ça.
Et ça, c'est notamment dû au fait qu'aujourd'hui, on a des technologies qui permettent aussi que les charges, elles sont moins lourdes. Qu'aujourd'hui, en fait, ces métiers du bâtiment ont été très masculinisés, ouais, notamment ouais, du fait que ce soit ça demande vraiment beaucoup de force et une forme physique qui était réservée qu'aux hommes qui ont un peu plus de testostérone et un peu plus de développement musculaire. Mais aujourd'hui, notamment avec des exosquelettes, mais sans aller jusque-là, il y a plein de choses qui sont mises en place qui permettent vraiment aux filles d'être très à l'aise et d'être vraiment à égalité avec les garçons. Et inversement, aujourd'hui encore, dans ce qu'on appelle les métiers d'art, ça peut être de la maroquinerie, de la broderie, de la céramique. On a un peu plus de femmes que de garçons, de d'hommes.
Oui.
Parce qu'on est dans des métiers de la décoration très minutieux. Mais il commence à y avoir un changement. Mm-hmm. Il y a de plus en plus de d'hommes qui s'autorisent à aller sur le design textile, sur la broderie, sur la couture et sur des métiers qui, jusqu'à présent, souffraient aussi un peu de stéréotypes de genre.
Alors, ne pensez pas, ma chère Gabrielle, si vous avez entendu ma petite introduction, ma petite libre antenne à moi, que j'en ai spécialement après le gouvernement, mais aujourd'hui, si je vous écoute et si je suis bien au courant, de l'or dans les mains, aujourd'hui, travaille avec 571 artisans qui interviennent dans 25 établissements, et au total, vous vous occupez de plus de 4200 collégiens qui ont, grâce à vous, découvert ainsi de nouveaux métiers. Mais vous montrez la voie, il y a quand même 3 millions de collégiens en France. Le gouvernement, aujourd'hui, en se rendant bien compte du retard pris par la France en termes de tous ces métiers, bouge-t-il et est-ce que votre initiative inspire-t-il le gouvernement? Parce que ce sont ces 3 millions de collégiens qu'il faudrait quand même sensibiliser et familiariser.
Oui. Non, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dès le début, il y a eu vraiment un axe de plaidoyer chez De l'or dans les mains, avec l'idée de dire, de toute façon, il y a 800 000 collégiens par classe d'âge en France. Nous, tout seuls, on aura beau trouver des sous, avoir plein d'artisans embauchés, on ne touchera pas. 800 000 jeunes, et c'est aussi peut-être le rôle des associations d'aiguiller les pouvoirs publics pour leur montrer aussi où est-ce qu'il y a des urgences à traiter et comment est-ce qu'on peut construire des politiques publiques qui finalement coûtent moins cher.
D'accord.
Nous on a alerté les pouvoirs publics, on est allé voir les cabinets ministériels. Il y a eu une première marche qui est le plan métier d'art qui a été annoncé l'année dernière par les ministres de la Culture, de l'Éducation nationale,
oui,
du Commerce et de l'Artisanat. Alors, tout n'est pas extraordinaire, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte où il y a quand même assez peu de moyens, ou plutôt on ne met pas forcément les moyens au bon endroit.
On ne les met pas, oui.
Mais en tout cas, ce plan métier d'art, il a permis de fédérer les acteurs et de mettre la lumière sur un secteur. Enfin, je pense que ça faisait quand même quelques dizaines d'années que le monde de l'artisanat n'attendait même plus un plan ou une politique publique qui la réponse
à ce qui paraît quand même incroyable. Hein.
Oui.
Alors comme j'essaie d'être un peu au courant de ce qui se passe dans mon pays, et puis que mon métier m'amène à j'ai la chance de parler avec beaucoup de citoyens, de citoyennes, j'ai eu l'occasion d'aller en Seine-Saint-Denis, échanger avec la responsable d'une association qui s'occupe de la réinsertion des jeunes détenus. Et là, il y avait deux collégiennes qui, étaient là et qui m'expliquaient que à la sortie de la quatrième ou de la troisième, je ne sais plus très bien, on les avait tout de suite orientées sur des métiers, enfin des filières professionnelles. Et tenez-vous bien, en fait, la vente. C'est-à-dire que pratiquement dans tous les quartiers populaires aujourd'hui, on oriente les gamins sur la vente. Ça me paraît complètement incroyable. Alors que on n'entend pas parler d'artisanat, en tout cas de métiers manuels, en fait, quoi. Gabriel, on est quand même assez mal barré, quand même.
Oui, mais bon, ça ne date pas du gouvernement Macron.
Enfin, non. Attendez.
Ni Sarkozy, ni Hollande, ni Mitterrand.
Ça date bien évidemment au moins des 7-8 gouvernements qui se sont succédés depuis 25-30 ans. L'abandon de l'industrie en France, ce n'est pas M. Macron, ça remonte, alors pas jusqu'au vase de Soissons, mais au moins à la fin de Mitterrand, pratiquement.
Jean-Pierre Chevènement, qui a eu pour objectif de mener 80% d'un classage au baccalauréat.
Oui, donc...
Je pense qu'on peut l'identifier à ce moment-là.
Oui. Donc, ma question, c'était, on peut mettre combien d'années, à votre avis, de votre point de vue, pour recréer un peu un appel d'air sur tous ces métiers manuels?
Alors là, je crois qu'il y a vraiment un appel d'air qui s'est d'abord créé en fait du côté des reconversions, parce qu'en fait il y a quand même pas mal de reconversions et qui en fait sont pour moi en train de combler les premiers trous dans la raquette et d'assurer cette première transmission. Nous ce qu'on voit c'est que il y a pas encore assez de jeunes qui ont vers ces formations, mais il y en a toujours plus qu'il y a 5 ans. Donc il y a quand même les lignes bougent et c'est pas que grâce ou à cause des politiques publiques, hein. Mmh. c'est aussi un mouvement de fond où les jeunes se posent aussi la question de ce qu'ils ont vraiment envie de faire, du sens qu'ils ont envie de mettre dans leur
mais dans un contexte difficile quand même pas très inspirant, vous en conviendrez.
Ben justement, et nous c'est un peu ça qu'on a envie de montrer, c'est que finalement ça vous tient quand même de faire des choses de vos mains, en fait. Je veux dire, quand tous les matins, vous vous réveillez pour aller fabriquer des sacs, des sacoches en cuir qui
bien
vont
sûr,
être portées par des clients qui vous les commandent. Et
d'autant
que vous
plus qu'on est plutôt doué en France pour ce genre de choses, en plus.
Oui, voilà. Mm-hmm. Sans que ça soit comme que l'apanage du luxe, hein. Je pense qu'il y a de plus en plus d'artisans qui se mettent à leur compte et qui veulent démocratiser aussi l'accessibilité de ces objets. Et donc, juste quand vous montrez ça, et les World Skills ou les salons avec les meilleurs ouvriers de France, il y a le montre aussi, je pense que quand on peut venir. Mm-hmm.
Mais ça me paraît encore assez confidentiel, si vous me permettez. Mais bon.
Oui, bien sûr.
Est-ce que, dernière question, Gabrielle, je crois savoir que vous avez à un moment suivi votre mère en Inde et que vous avez été sensibilisé, inspiré. Quand on va en Inde, comme dans tous les pays pauvres, hein, en tout cas à forte population, on s'aperçoit que le système D est bien là et que surtout on se sert beaucoup de ses mains. Est-ce que vous avez été inspiré? Est-ce que votre inspiration, elle vient de là, en fait, de ce moment-là de votre vie?
Oui, je crois qu'elle vient notamment là. Donc ma mère est danseuse. Mmh. Elle pratiquait un art d'un théâtre dansé de l'Inde du Sud. Donc c'est vrai que et les fleurs dans les cheveux et aller chercher ses bijoux, faire réparer ses touchettes, faire reprendre ses costumes par le couturier, choisir si la soie sauvage devait être rose ou bleue, avec quel motif brodé en or dessus. Ben c'était comme un ballet dansant de mains que je voyais petite et où finalement mes yeux s'arrêtaient à hauteur de leurs mains. Mm-hmm. Je pense que c'est quelque chose en effet qui marque et où finalement ça fait beaucoup plus partie du quotidien et où la temporalité n'est pas la même. La temporalité de prendre soin des choses et d'attendre que son pantalon soit fabriqué après avoir été fait prendre ses mesures par le couturier, bah, c'est quelque chose qui, oui, en fait, m'a beaucoup habité, en tout cas, m'a presque conditionné. Donc, il y avait un espèce de rupture quand je revenais en France et que les choses n'étaient pas du tout comme
ouais,
ça.
Oui, il y a un sacré choc, et pas que thermique quand on revient d'Inde. Ouais. Pays que j'adore, qui m'a détruit dernièrement le ventre depuis des mois, mais que je vraiment j'adore. On a au moins ce point en commun, ma chère Gabrielle. Merci mille fois pour votre intervention ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes la directrice générale et la fondatrice de l'association De l'or dans les mains, le site internet www.delordanslesmains.com, et que vous travaillez aujourd'hui avec 571 artisans, 25 établissements et au total 4200 collégiens qui ont la chance d'avoir croisé votre chemin et de pouvoir profiter de ces inspirations, des inspirations de l'or dans les mains de l'association. Merci mille fois.
Si les artisans nous écoutent, ils peuvent nous rejoindre en cliquant sur le lien sur le site internet Devenir artisan.
Voilà, site internet que nous mettrons sur notre page Facebook. Merci et bonne nuit, Gabrielle.
Merci.
Au revoir.
Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local.
Southern Central freight. Keep on pushing, mama, even though they're running late. Without love, where would you be now?
Tracks, Long Train Running sur Europe 1. Je vous rappelle que vous êtes sur la libre antenne. Europe 1 Sport, le studio des légendes, présenté par le grand et immense Jacques Vendroux. Votre grand rendez-vous sport du vendredi au dimanche.